Europe Soir, le 18-20. Julien Bugier.
Et on est ensemble jusqu'à 20h évidemment avec le journal et juste après on ouvre comme chaque soir le Club des Idées. Ce soir, quel avenir pour le tourisme français? Hôtels, restaurants, grands sites touristiques pourront survivre sans les vacanciers étrangers? On se posera la question. Il y a à la clé évidemment des dizaines de milliers d'emplois. Alors face à cela, nous verrons comment la France du tourisme se réinvente pour attirer les touristes français. Et à 19h15, la carte blanche du Club des Idées avec ce soir la philosophe Juliette Funès et son coup de cœur pour le bon mot d'Emmanuel Macron qui fustige les anti-5G. Elle nous expliquera tout. Mais d'abord, l'heure du journal avec vous, Carole Ferry. Il est 19h, vous êtes à l'écoute d'Europe 1.
Une fermeture complète de ce site, c'est un assassinat. Et c'est un assassinat prémédité. On a eu affaire à des cyniques et à des menteurs.
Action en cascade après l'annonce choc de la fermeture de l'usine de pneus Bridgestone à Béthune. 863 emplois sont menacés.
Environnement, santé, lutte contre le racisme. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, présente sa feuille de route et confirme sa volonté de réformer le système d'asile européen.
Impressionnant coup de filet au cœur de la mafia calabraise. Ça s'est passé hier à Marseille. Plus de 40 personnes ont été interpellées.
Des rues piétonnes pour lutter contre la pollution de l'air près des écoles. Paris et Lyon, nous le verrons, sont déjà convertis.
Enfin, il y a du foot ce soir, PSG-Metz, alors qu'au même moment se réunit la commission de discipline de la Ligue après le match PSG-OM, c'était dimanche dernier.
La tendance météo avec vous, Anissa, encore de la chaleur au programme dans le sud.
Elle n'est pas finie, hein, cette vague de forte chaleur, toujours en cours, même si la journée la plus chaude de la semaine est passée, c'était mardi. Eh bien demain, les températures baissent légèrement dans le nord et restent très élevées dans le sud. Je vous dis tout à la fin du journal.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Quel avenir pour l'Europe? La nouvelle présidente Ursula von der Leyen a dévoilé sa feuille de route aujourd'hui devant les députés européens. Ses priorités? L'environnement, avec un objectif passé de 40 à 55% de réduction de gaz à effet de serre d'ici 2030.
Oui, elle a également défendu l'Europe de la santé et demandé la reconnaissance du droit de la parentalité des couples du même sexe dans tous les pays de l'Union.
Enfin, Isabelle Horry, elle a confirmé la réforme de Dublin, le système d'asile européen.
Oui, c'est une réforme que l'on attend depuis des mois et elle est devenue encore plus d'actualité à la lumière de l'incendie du camp de Moria en Grèce. L'enjeu est de taille. Depuis la crise migratoire de 2015, c'est l'impasse entre les Européens sur ce sujet. Le système actuel, celui de Dublin, donc, a montré ses limites. Il prévoit notamment que les demandes d'asile soient traitées dans le pays de première arrivée. L'Italie ou la Grèce se sentent abandonnées par les autres. Mais la tentative de répartition par quota entre les pays a aussi était un échec cinglant. Ursula von der Leyen cherche une troisième voie. Elle l'a esquissée tout à l'heure.
La semaine prochaine, la Commission européenne présentera son pacte sur la migration. Il y a des principes. D'abord, sauver des vies en mer. Ce n'est pas optionnel. Ensuite, les pays qui remplissent leurs obligations juridiques et morales ou qui sont plus exposés que d'autres doivent pouvoir compter sur la solidarité de toute l'Union européenne.
Voilà, la Commission promet un vrai système européen avec des réponses communes, adaptées et modulées selon l'urgence, la pression migratoire ou encore s'il s'agit de migrants sauvés en mer. Il y aurait plus de 500 pages de texte. Évidemment, tous les pays guettent ce texte avec impatience, de ceux qui sont en première ligne jusqu'à ceux qui ne veulent surtout pas être contraints à la solidarité. Le sujet est tellement sensible que selon une source au fait du dossier, les derniers arbitrages politiques ne sont pas encore rendus.
Merci Isabelle Horry, vous êtes la correspondante d'Europe 1 à Bruxelles.
Dans l'actualité également ce soir, ce coup de massue à Béthune.
La direction de Bridgestone, numéro 1 mondial du pneumatique, annonce la fermeture de son usine en 2021. 863 salariés sont menacés.
Oui, beaucoup de réactions, notamment celle du président des Hauts-de-France, Xavier Bertrand, qui s'est rendu sur place au chevet des salariés. Cet après-midi, il n'a pas mâché ses mots.
Une fermeture complète de ce site, c'est un assassinat. Et c'est un assassinat prémédité. On a affaire à des menteurs parce qu'en novembre 2019, ils nous ont dit les yeux dans les yeux, non, vous savez, il y a des difficultés sur le marché du pneu, mais il n'est pas question de fermer. On est aujourd'hui en septembre 2020 et visiblement, on a eu affaire à des cyniques et à des menteurs. Il y a une possibilité aujourd'hui de changer la donne. C'est que Bridgestone renonce à son projet de fermeture et accepte un projet d'investissement sur ce site. Si Bridgestone investit, l'État la région, les collectivités locales, on mettra aussi de l'argent. Donc la question c'est simple, est-ce qu'on a affaire à des industriels ou est-ce qu'on a affaire à des financiers? Si c'est des industriels, ce langage-là, ils peuvent l'entendre. S'ils ne le veulent pas, c'est une autre histoire, c'est des financiers. On sait qu'ils n'ont pas de cœur, ils ont un portefeuille ou une calculette, et là dans ces cas-là, je le dis très clairement, là ça va être un combat. Et si ça leur coûte d'investir, ça va leur coûter beaucoup plus cher de fermer le site.
Xavier Bertrand qui aura l'occasion de s'exprimer sur le sujet dimanche prochain sur notre antenne puisqu'il sera l'invité du Grand Rendez-vous d'Europe 1.
Xavier Bertrand qui n'est pas le seul à être monté au créneau aujourd'hui. Plusieurs membres du gouvernement ont également dénoncé cette décision et notamment le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal qui a parlé d'une trahison.
Suez ne veut pas être avalé par Veolia. Le président du géant français de la gestion des eaux et des déchets, Philippe Varin, se trouve en ce moment même dans le bureau de Bruno Le Maire pour le convaincre qu'une alternative est possible.
Oui, à noter que le Conseil de Suez a voté à l'unanimité aujourd'hui le lancement d'un droit d'alerte sur le projet d'OPA de Veolia.
L'opération Forever, on pourrait presque penser à un titre de film.
Mais c'est le nom donné par la police marseillaise à l'immense coup de filet lancé hier à l'aube. La cible, un réseau criminel qui fournissait de la drogue à la mafia calabraise.
Une enquête au long cours, Nathalie Chevance.
Oui, 2 ans d'enquête pour aboutir au démantèlement d'une bande de malfaiteurs installée sur la Côte d'Azur, en lien direct avec la mafia calabraise qu'ils fournissaient très régulièrement en cocaïne. Hier matin, à l'aube, 300 gendarmes et 120 carabiniers italiens ont arrêté pas moins de 45 personnes. Une opération exceptionnelle par son ampleur, avec de très belles prises. 700 000 euros en liquide, 1 kilo de cocaïne, des montres, des voitures de luxe, mais aussi des armes, et notamment des armes de guerre. Preuve de la détermination de ces trafiquants très chevronnés, qu'il a fallu pister, surveiller, écouter avec des techniques de pointe, comme explique le colonel Lambert, commandant de la section de recherche de gendarmerie de Marseille.
Des gens qui se livraient à un trafic de stupéfiants de manière très organisée, très professionnelle, qui étaient habitués à vivre sous les radars, dans une quasi-clandestinité, dirais-je, ou au moins une grande discrétion, assez méfiants. Avec des liens avec la mafia calabraise, un monde compliqué, difficile, impitoyable. On n'a pas été trop de gendarmes et de carabiniers pour travailler ensemble sur cette population. Plusieurs étaient armés, oui.
Et ce soir, les autorités françaises et italiennes tiennent à souligner l'excellente coopération policière, mais aussi judiciaire au-delà des frontières, qui a donc permis de mettre un coup d'arrêt à ce réseau et de mieux comprendre les ramifications de la mafia calabraise sur la Côte d'Azur.
Nathalie Chevance, correspondante d'Europe 1 à Marseille. Nouveau bilan sur le nombre de classes fermées en France à cause du coronavirus. Désormais 81 établissements scolaires et plus de 2000 classes sont portes closes.
Le Covid qui continue de faire de lourds dégâts économiques sur certains secteurs, notamment la Fédération internationale de football, qui annonce une perte de 14 milliards de dollars. En cause, les stades vides et l'absence de retransmission télévisée.
Facture bien plus lourde encore pour le tourisme mondial. Les pertes sont évaluées à 460 milliards de dollars. Pour vous donner une idée, c'est quasiment 2 fois le montant du budget de l'État français.
Et enfin, à noter qu'en France, l'absence des touristes étrangers a entraîné, on l'a appris aujourd'hui, une chute de plus de 49% des recettes. Un bilan évidemment catastrophique, en partie compensé par les touristes restés en France cet été. On en parlera très largement dans quelques minutes dans le grand débat du Club des Idées.
C'est aujourd'hui la journée de la qualité de l'air à Paris et Lyon. Les maires piétonnisent les abords des écoles à marche forcée depuis la rentrée.
Oui, alors quel rapport, me direz-vous peut-être? Eh bien, ça limite le passage des voitures et de leurs pots d'échappement polluants. À Paris, 57 rues ont ainsi été piétonnisées ou limitées à 20 km/h.
Comme dans cette rue du 19e arrondissement où s'est rendue Virginie Salmen.
Oui, rue Tandoux, où il y a 4 écoles très proches. La mairie a installé d'énormes jardinières en quinconce de part et d'autre de la rue pour forcer les voitures à slalomer et donc à rouler au pas.
C'est assez grosse jardinière, elle doit faire 1 mètre par 1 mètre.
Antoine Jougla, ingénieur en chef à la voirie, ajoute qu'il n'est plus possible de se garer. Les lignes en pointillé des places ont été effacées. Malgré ça, une dizaine de voitures sont encore garées et la fourrière passe sous nos yeux. Et pour que ce nouvel aménagement soit évident, à l'entrée de la rue, des piétons géants ont été peints en blanc sur le sol.
C'est vraiment inratable pour signaler à l'automobiliste que là, il roule sur un espace qui est dédié aux piétons.
Même tendance à Lyon, où les élèves et leurs parents ont eu la surprise de découvrir le jour de la rentrée les abords d'une dizaine d'écoles transformées avec un slogan « Plus de sécurité, moins de bruit et moins de pollution ». Et ça va continuer cet automne. D'autres accès à des écoles et même des collèges de la métropole lyonnaise vont être interdits aux voitures.
Europe Soir, le 18-20. Julien Bugier.
Et la suite de votre journal à 19h11 avec Carole Ferry. On part maintenant à l'étranger. On savait que les Kurdes étaient les éternels oubliés de l'histoire. Eh bien, on sait désormais qu'ils sont aussi persécutés par l'armée turque en Syrie.
Depuis 2 ans, ce sont les conclusions d'un rapport accablant publié hier par une mission d'enquête spéciale des Nations Unies qui dénonce les crimes terribles commis en Syrie dans les zones kurdes.
Et on en parle ce soir avec vous, Didier François. C'est l'œil de Didier François sur l'actu internationale. Bonsoir Didier.
Bonsoir.
C'est une enquête effectivement implacable, menée sur le terrain pendant presque 6 mois et qui a permis de recueillir des témoignages absolument terrifiants.
Oui, des récits de survivants tout simplement glaçants qui racontent de manière très clinique les tortures infligées par les milices supplétives de l'armée turque aux civils kurdes, arrêtés de manière massive et parfaitement arbitraire dans les régions du nord de la Syrie occupées par les offensives turques de 2018 puis 2019. La douleur, l'isolement, la faim, la soif, une persécution du quotidien, sans règles, sans limites, jusqu'à la folie ou la mort, mais surtout une volonté d'humilier et de briser toute résistance. C'est ce qui ressort de façon extrêmement frappante de ces dizaines de témoignages exceptionnels, parce que les régions d'Afrin et de Ra'is el Naïn sont pratiquement inaccessibles depuis qu'elles sont passées sous contrôle turc. Et on découvre dans ce document que des miliciens entraînés et encadrés par des militaires d'un pays membre de l'OTAN, candidats à l'Union européenne, se comportent comme de vulgaires djihadistes. Le recours au viol est systématique. Le viol collectif des femmes, souvent devant leurs maris, leurs enfants, devant leurs familles, leurs voisins. Le viol comme arme de guerre. Et puis les pillages, les expropriations, les confiscations de biens, de fermes, de maisons, de champs. Tout cela vise à instaurer une terreur pour imposer le départ, la fuite des populations kurdes de ces zones frontalières de la Turquie. C'est la définition d'un nettoyage ethnique, car il faut bien appeler un chat un chat.
Et Didier, ce rapport de l'ONU va aussi très loin dans la dénonciation de la Turquie.
Oui, il estime que son implication est, je le cite, totale. D'abord parce que la Turquie est juridiquement responsable du traitement des civils dans ces zones, dont elle est la puissance militaire occupante, donc selon les règles de la Convention de Genève. Ensuite, parce que des fonctionnaires turcs sont impliqués dans ces crimes de guerre de façon directe, ce qui les rend passibles de poursuites devant les instances de la justice internationale.
Merci Didier. L'œil de Didier François, c'est tous les soirs, vous le savez, dans le journal de 19h.
Il y a du foot ce soir. Match en retard de la première journée de Ligue 1. Match surtout entre le PSG et Metz.
Et c'est une soirée un peu particulière pour les Parisiens, puisque la commission de discipline de la Ligue est réunie en ce moment même pour faire le point après le match à scandale PSG-OM de dimanche dernier.
Bonsoir Julien Froment.
Bonsoir.
Alors il faut peut-être être plus... Il faut être clair, plusieurs joueurs du club risquent gros ce soir.
Oui, exactement. 3 Parisiens dans le viseur de la commission de discipline qui rendra son verdict dans la soirée. Alors il y a le défenseur Layoun Kurzawa qui a déclenché une bagarre générale. Il encourt jusqu'à 7 matchs. Le milieu de terrain Léo Paredes, qui a pris 2 cartons jaunes synonymes de rouge, risque beaucoup moins. Quant à Neymar, alors là c'est un dossier plus complexe, sa tape dans la nuque du défenseur marseillais Alvaro Gonzalez devrait lui valoir entre 3 et 5 matchs, mais il aurait tenu des propos à caractère homophobe, ce qui pourrait alourdir sa sanction. Il y a aussi le cas André Di Maria qui est dans le collimateur, il aurait craché sur ce même Alvaro Gonzalez. Bref, une commission qui ne rassure pas du tout l'entraîneur parisien Thomas Tuchel.
Nous sommes inquiets, absolument, parce que je ne suis pas sûr qu'on regarde tout le contexte, qu'est-ce qu'il y a passé sur le terrain. Je suis inquiet, c'est clair.
Bah enfin, ils ont quand même un match à jouer hein, ce soir, ce sera avec pas mal d'absents.
Oui, donc les 3 cartons rouges, puis la nouvelle recrue Florenzi qui n'est pas qualifiée pour le match. Il y a aussi Marco Verratti, Thilo Kehrer qui sont blessés, Kylian Mbappé touché par le Covid qui est encore indisponible, ça commence à faire beaucoup. Heureusement pour Thomas Tuchel et le PSG, des joueurs reviennent, Marquinhos, l'attaquant Mauro Icardi ou encore Keylor Navas. Rassurez-vous, il y aura bien 11 joueurs ce soir sur le terrain pour tenter de gagner son premier match de la saison.
On est rassurés. Coup d'envoi du match PSG-Metz, c'est à 21h au Parc des Princes.
Merci pour ce journal, Carole Ferry. La météo avec vous, Anissa. Le Nord respire demain.
Ça fait du bien. Ce sont de très bonnes nouvelles que j'ai à vous annoncer, effectivement, puisque les températures sont en baisse enfin sur la moitié Nord demain avec 20 à 28 degrés. 20 pour Dunkerque, 21 à Boulogne-sur-Mer, 24 à Lille, 25 à Caen, 28 à Paris. Sur la moitié Sud, en revanche, nous sommes toujours au cœur de cette vague de chaleur, surtout dans le Sud-Ouest. Ça grimpe encore demain avec 30 degrés à Chambéry, 31 à Bastia, 32 à Clermont-Ferrand, 33 à Nîmes, 35 pour Bordeaux et 36 à Mont-de-Marsan. Pour la maximale, côté ciel, rien n'a signalé. Le soleil
comment
brille
ça, rien
partout.
N'a signalé.
Rien. Du ciel bleu et du soleil, c'est tout, Julien.
Toute la
j'en
semaine
suis certaine. Demain, en tout cas.
Ah oui, d'accord. Ça y est, vous commencez à prendre des précautions.
Bonne soirée.
Bonne soirée, Anissa. À demain.
À demain.
Merci, Anissa. 19h15, on ouvre maintenant, comme chaque soir, le Club des idées.
Europe Soir, Julien Bugier.
Je vous demande de vous arrêter.
Je suis très en colère.
Écoutez, vous êtes un peu. C'est pour ça que vous êtes coupé de la réalité.
Avec d'abord, comme chaque soir, la carte blanche de l'un de nos éditorialistes. Un coup de griffe ou un coup de cœur sans détour. Et ce soir, j'accueille une philosophe et écrivaine de renom, Esprit Libre, spécialiste aussi du management. Bonsoir Juliette Funès.
Bonsoir Julien.
Merci d'être avec nous, on est ravis de votre présence dans le Club des Idées. Alors ce soir, c'est un coup de cœur que vous délivrez pour le mot d'esprit d'Emmanuel Macron concernant les anti-5G.
Oui, exactement, qu'il a traité d'Amish. Vous savez qu'il a dit que le modèle Amish ne résoudrait pas les défis de l'écologie, c'était lundi soir,
oui,
face à des responsables d'entreprises françaises de technologie. Et j'ai bien aimé ce mot d'esprit parce que depuis Freud et son mot d'esprit qu'il a écrit en 1905, on sait que le mot d'esprit s'élabore un peu comme le rêve, c'est un travail psychique qui camoufle une vérité plus ou moins consciente et en la matinant d'humour. Et ici, le mot d'esprit de Macron résulte d'un travail, si j'emploie le mot savant, de condensation, mais c'est très simple, en d'autres termes, ça veut dire exprimer, en dire peu, mais pour exprimer beaucoup.
Ah.
Et là, en un seul mot, Amish, c'est tout un pan de l'écologie qui ressort et pas le meilleur. Celui de l'écologie un peu sale à force de faire pipi sous une douche solaire, un peu grise à force de s'alimenter en graines de zanzibar ou de sauge, un peu tristounette à force de se perdre en larmes de Job ou de Shiva. Bref, en gros, on en connaît tous un. Maintenant, c'est les raisonneux qui nous conseillent d'épurer, de revenir à l'essentiel, de distinguer l'important du superflu et surtout de proscrire...
L'écologie qui culpabilise.
Exactement, culpabilisante et qui proscrit d'ailleurs toute innovation technologique. Cette écologie-là, en tout cas, ne marchera jamais pour moi, selon moi, parce que pour une raison, alors évidemment économique, on l'a vu pendant le confinement, ouais, les 3 mois de décroissance, on voit dans quel état ça met le pays.
Oui, et puis aujourd'hui, on nous dit qu'il faut consommer
oui,
pour faire repartir la machine.
Oui, exactement, il faut se faire plaisir. J'ai bien aimé, moi, la phrase du ministre qui a dit ça. Mais pour une raison plus simple, ça ne marchera jamais, c'est plus philosophique, plus existentiel, c'est que l'homme n'est pas un être de besoin, mais de désir. Ça fait beaucoup, ça fait des millénaires que les philosophes le disent. Celui qui l'a le mieux exprimé, c'est Bachelard dans Psychanalyse du feu. Et en gros, si on distingue besoin et désir, le besoin est nécessaire, le désir est superflu. Mais c'est pourtant en passant de la nécessité d'un besoin à la contingence d'un désir qu'on transforme notre existence en vie. Tous les charmes de notre vie sont des résultats de désir, pas du tout des résultats de besoin.
C'est vrai.
C'est bien un désir qui nous hisse du besoin de se nourrir, du besoin alimentaire, à la gastronomie raffinée. C'est bien les détails d'une décoration, le raffinement d'une ambiance qui nous font passer d'un besoin d'abri au désir d'un foyer confortable. Donc c'est une chose d'exister, c'est tout un art, avec tous les artifices que l'art suppose, que de vivre. Alors l'écologie, c'est pour ça que l'écologie décroissante se trompe, me semble-t-il, de voie en réduisant la vie à l'existence, en niant tous les désirs et en ne se préoccupant que des besoins. Elle se trompe de voie quand elle veut toujours moins, alors que l'homme veut toujours plus et ou mieux. Elle gagnerait des voix en donnant envie d'un monde meilleur, non pas du tout en condamnant ce qui se fait, mais en sublimant ce qui est, non pas en visant la décroissance, mais en magnifiant l'existence, non pas en s'opposant à des traditions, et là je pense au sapin de Noël d'il y a oui, quelques jours, mais en encourageant des innovations, non pas en refusant tout progrès, mais au contraire en accompagnant avec responsabilité la modernité.
Mais je vous rejoins totalement, on avait le désir de vous entendre ce
et
soir.
Et moi j'avais le désir de venir.
Et ben, le désir partagé et non un besoin.
Exactement.
Merci beaucoup
merci
pour cette
vous
analyse et cet éclairage. Je vous reviendrai, j'espère.
Ah ben, j'en ai le désir, absolument.
Et ben nous aussi. Merci Juliette Funès.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
19h22, on est toujours ensemble dans le studio d'Europe Soir et on ouvre maintenant, comme chaque soir, vous le savez, le débat du Club des Idées. La France peut-elle se passer de ses touristes étrangers? Le secteur, on le sait, est en grande difficulté avec cette crise du Covid. Restaurants, hôtelleries, musées, patrimoine bien sûr, grands sites touristiques. Avons-nous les moyens de rester la première destination mondiale des touristes? Il y a derrière évidemment un enjeu économique majeur et des milliers d'emplois à la clé. À quoi ressembleront nos vacances dans les années qui viennent et puis dès l'été prochain, en 2021. On en parle ce soir avec nos invités. Jean-Pierre Masse, bonsoir, vous êtes président des entreprises du voyage. On en parle également avec Roland Egui, vous êtes président de l'UMI, l'Union des industries et hôtelières françaises. Et vous êtes auteur aussi de Changeons notre tourisme, c'était aux éditions du Cherche Midi et c'est sorti je crois en janvier 2020. Bonsoir.
Bonsoir.
Et on en parle également avec Vangelis Panayotis, vous êtes consultant en tourisme, président de MKG Consulting. Alors peut-être d'abord messieurs, un mot du constat. L'été a été plutôt bon pour l'hôtellerie et la restauration, mais sur la durée, évidemment, le compte n'y est pas. Roland Egui, j'ai lu que vous dites que ce sont à terme peut-être 15% des établissements qui sont menacés de fermeture, faute de trésorerie et de perspectives.
Oui, malheureusement, c'est vrai, puisqu'effectivement, on a eu un mois de juillet, un mois d'août favorable tout le long du littoral, que ce soit Méditerranée ou que ce soit Atlantique. Donc le tourisme a bien fonctionné, surtout dans les CHR, les cafés, hôtels, restaurants. Mais c'était un petit peu l'arbre qui cachait la forêt, parce que dès qu'on est arrivé en début septembre, on s'est aperçu qu'effectivement, on allait arriver dans l'heure de vérité, je dirais, et que tout n'allait pas se passer comme ça. Et je pourrais rajouter, malheureusement, que ce matin, j'ai reçu tous les acteurs du tourisme. On a fait un tour de table avec l'ensemble des acteurs du tourisme. Et c'est vrai que la situation était très inquiétante, et le message commun était unanime sur l'inquiétude sur les semaines à venir.
Mais vous dites 15% des établissements pourraient fermer dans les mois qui viennent.
Moi, j'ai dit 15% des établissements vont fermer.
Mais c'est terrible.
Avec une capacité. Bien sûr, c'est terrible. C'est pour ça que tous
combien
les jours...
Combien de milliers d'emplois à la clé pourraient disparaître?
200 000.
200 000.
Le chiffre, oui, effectivement. Le chiffre est sur le bureau de Bercy, il est sur le bureau du ministère du Travail. Et on connaît les raisons, c'est pour ça qu'on se bat tous les jours, j'allais dire, effectivement, pour éviter et pour accompagner ces entreprises pour qu'elles survivent.
Jean-Pierre Masse, même constat, vous êtes président des entreprises du voyage. Alors, il y a quand même des choses qui ont mieux fonctionné que d'autres cet été, puisque la situation est assez contrastée selon les régions et les types d'activités, évidemment.
Oui, moi, je vais vous dire d'abord ce qui n'a pas fonctionné, c'est les voyages des Français à l'étranger. Les Français sont restés en France et c'est une bonne chose pour le tourisme en France, parce que les étrangers ne sont pas venus. Ensuite, en France, ce qui a marché cet été, c'est le tourisme de littoral, au bord de la mer, le tourisme de campagne et de montagne.
Oui. On en parlera de la montagne, parce que c'est intéressant ce qui se passe du côté de la montagne.
Mais en revanche, le tourisme urbain, qui est un tourisme plutôt que pratiquent les populations, les visiteurs étrangers pendant l'été.
Oui.
Le tourisme urbain n'a pas du tout
Paris,
fonctionné.
Par exemple.
Paris, ça a été une catastrophe touristique, parce que les touristes qui venaient de l'étranger ne pouvaient pas venir, et surtout ceux qui venaient en dehors de l'espace Schengen, eux ne pouvaient absolument pas venir. Les Américains, les populations du Golfe.
C'est assez fou d'ailleurs ce qu'on a vécu au-delà évidemment de la crise sanitaire. Quand on se promène dans Paris, quand on se promène à Bordeaux, quand on se promène dans les grandes villes touristiques françaises, on n'entend plus le chinois, le japonais, l'américain, le coréen, on n'entend plus.
Absolument. Les Chinois, il y a des entreprises, des agences de voyage qui sont spécialisées dans l'accueil des Chinois, qui ont jusqu'à 100 salariés à Paris et qui aujourd'hui ont
zéro activité.
Tant qu'il y a des aides et du soutien du gouvernement, ça va. Si ce soutien commence à lâcher, il va y avoir des dépôts de bilan et des licenciements importants.
Alors, question pour revenir sur notre débat, maintenant qu'on a posé le constat très malheureux et plutôt sombre pour les mois qui viennent. Vangelis Panayotis, vous êtes consultant en tourisme. Est-ce que la France peut, dans la durée, se passer de ces touristes étrangers? Quand je parle des touristes étrangers, c'est ceux qui, par définition, ne peuvent pas venir aujourd'hui en France. Donc hors Europe, principalement.
Évidemment, on a notamment l'industrie du luxe ou haut de gamme, qui est celle qui vit essentiellement avec ce type de clientèle. On sait qu'on a un trou d'air. On voit que les compagnies aériennes espèrent un retour à la normale en 2025. Donc ça paraît très loin. Comme Roland l'évoquait, il va falloir survivre entre-temps. Il y aura évidemment de la casse, c'est sûr. Mais souvent, on perçoit mal l'impact qu'a le tourisme sur d'autres secteurs. Aujourd'hui, touristes internationaux à Paris, ils vont manger, ils vont découvrir la gastronomie dans les restaurants étoilés, ils vont aller faire leurs courses aux Galeries Lafayette. Il y a tout un écosystème qui vit comme ça et qui aujourd'hui est mal perçu en termes d'impact. Donc il va falloir qu'on trouve des clientèles de substitution. Mais il va falloir aussi, surtout, qu'on adapte les modèles.
Alors, on va voir, justement, dans quelques secondes, après la première pause, comment le tourisme français peut se réinventer. Parce que, vous le disiez, la France reste la première destination mondiale avec plus, tenez-vous bien, de 89 millions de visiteurs étrangers par an. A tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
Et on ouvre, comme chaque soir, vous le savez, à partir de 19h30, le débat du Club des idées. Deuxième partie à présent, la France peut-elle se passer de ses touristes étrangers? On en parle ce soir avec nos invités, le secteur est en grande difficulté. Alors comment le tourisme français va-t-il se réinventer? On parlait juste avant la pause de l'impact, de l'absence des touristes hors européens qui sont très nombreux chaque année à venir en France. Hein, la France qui reste, vous le savez, la première destination touristique au monde. Écoutez par exemple la directrice de la communication du comité de tourisme Côte d'Azur. Elle dresse le bilan pour la saison.
De juillet à septembre, le Moyen-Orient, les États-Unis, le Canada et la Chine représentaient à peu près 850 000 touristes sur 1,4 million. Tant qu'il n'y a pas l'ouverture de ces frontières hors espace Schengen et que les flux aériens ne sont pas ouverts, ça va être un manque.
Voilà, au micro de Frédéric Michel. Alors, on estime que l'épidémie de Covid a entraîné une chute de 49% des recettes touristiques internationales sur le seul premier semestre. Je parle sous votre contrôle, Roland Aigui. Vous êtes président de l'UMI, hein, qui regroupe les restaurateurs et les hôteliers français. La France, première destination mondiale, donc. Ça veut dire que quand il n'y a pas de touristes étrangers, il y a par définition moins d'activités. J'ai vu qu'un visiteur, étranger, quand il vient en France et qu'il reste quelques jours, il dépense en moyenne 551 €. Et ça monte jusqu'à 1 500 € pour les Chinois et les Japonais. Donc c'est autant d'argent en moins, j'allais dire, pour l'industrie du tourisme.
Bien sûr, c'est malheureusement, c'est aussi d'argent en moins pour l'hôtellerie prestigieuse de luxe que l'on a en France, qui est reconnue dans le monde entier. La preuve, c'est que toutes ces clientèles américaines, asiatiques, chinoises viennent dans ces établissements-là.
Et alors, comment on fait pour les remplacer? Est-ce que seuls les Français peuvent remplacer cette manne financière importante pour toute l'industrie?
Alors, premièrement, il faut que l'activité économique reparte, quoi qu'il arrive.
Oui. Hein.
En face, effectivement, pour consommer, il faut que ça aille bien, il faut avoir des clients, il faut avoir de la consommation. Donc, les entreprises doivent, au départ, repartir. Alors, il y a quelques signes dans ce domaine-là qui sont favorables. Mais, effectivement, les chiffres que vous avez annoncés sont vrais, j'allais dire, puisque sur ces 90 millions de touristes étrangers, à la fin de l'année, on va s'apercevoir qu'il n'y en a pas 20-25% qui seront revenus en France et qui vont dépenser de l'argent. Et c'est vrai que si on rajoute dans ces tourismes étrangers aussi, ce qui est très important, le tourisme d'affaires,
oui,
qui représente globalement plus de 35% du chiffre d'affaires en France. Dans le tourisme d'affaires, il y a l'événementiel, il y a effectivement cet écosystème, comme le disait Vangelis, qui est très très important. Et donc, en termes de business, va nous échapper cette année.
Et vous dites, la clé pour relancer l'économie touristique en France, ce sont les territoires, c'est la ruralité. J'allais dire, vous êtes un peu Jean Castex avant l'heure. Expliquez-nous ça. Parce que vous dites aujourd'hui, le tourisme, il se concentre sur 20% à peu près du territoire. Donc, il y a 80% du territoire dans lesquels il faut aller proposer des offres aux touristes.
À l'UMI, on a cette capacité, effectivement, d'avoir un observatoire. On s'aperçoit que 85% des touristes aujourd'hui, était sur 20% du territoire français. Donc, c'est 20% étouffé. Alors qu'on n'arrête pas de dire que la France est un pays majestueux, où il y a des territoires extraordinaires, il y a des départements, enfin voilà, des sites. C'est que le problème, c'est qu'on ne pouvait pas y accéder. Donc, la partie effectivement positive, on peut imaginer que quand on parlait de repenser le tourisme,
oui,
effectivement, avec les territoires, avec les départements, avec les régions et avec l'État, on pourra commencer, d'ailleurs, on l'a vu, à cette volonté de remettre des trains sur les territoires, de faciliter les accès et la mobilité, on arrivera effectivement peut-être à redécouvrir ces territoires qui sont extraordinaires.
Vous êtes d'accord, Jean-Pierre Mas, vous êtes président des entreprises du voyage, c'est ça la clé pour relancer l'industrie du tourisme en France et peut-être se passer de ces touristes étrangers qui ne vont pas revenir de sitôt, c'est la ruralité, c'est le développement du territoire.
Alors je ne crois pas qu'on puisse se passer à long terme des touristes étrangers et je souhaite qu'ils reviennent rapidement, ne serait-ce que parce que leur contribution financière est plus importante que les Français.
Et oui, ils dépensent plus que les Français quand ils viennent chez
nous. Ils dépensent plus que les Français. Et beaucoup plus même. Surtout les touristes non européens.
Oui.
Ça, c'est le premier point. Sur les territoires, il y a une avancée, c'est l'aménagement du territoire. On a aujourd'hui François Bayrou qui est responsable de l'aménagement, qui est responsable de la planification.
Oui.
Et j'espère qu'il se saisira dans la planification des anciennes attributions de la DATAR, c'est-à-dire de l'aménagement du territoire. Et l'aménagement du territoire en matière touristique, c'est absent des radars depuis les années 1960.
Mais de ce point de vue-là, par exemple, un acteur comme Airbnb, qui est parti maintenant à la conquête des campagnes, des montagnes. Alors je sais que ça fait de la concurrence aux hôteliers, mais est-ce que c'est un allié ou un ennemi ?
Ce serait un allié, et c'est un allié, s'il joue à armes égales avec les professionnels.
Ce qui n'est pas le cas, évidemment.
Ce qui n'est pas encore le cas. Ça le deviendra certainement, et dans ce cas-là, pourquoi ce ne serait pas un allié ?
Alors, en termes d'aménagement du territoire, il y a un exemple assez frappant cette année, c'est la montagne, on l'évoquait tout à l'heure, c'est l'une des destinations phares de l'été. Année après année, c'est désormais, je crois, la deuxième destination préférée des Français après le littoral. Comment est-ce qu'on fait, voilà, quand on est patron de collectivité, quand on est patron d'une station, de ski l'hiver et puis de sport d'été pendant la période estivale pour attirer les clients, pour attirer les touristes, qu'ils soient d'ailleurs français ou étrangers. Vangelis Panayotis, vous êtes consultant en tourisme.
Aujourd'hui, on voit qu'il y a une vraie diversification de ces stations. On ne parle plus de stations de ski, on parle de stations de montagne parce qu'elles vont essayer de fonctionner à la fois l'été et l'hiver et donc proposer des bases aqualudiques également, des animations pour les familles, des randonnées. Et aujourd'hui, je pense, on ne l'a pas encore évoqué, mais est-ce qu'il y a un monde d'après pour le tourisme? On parle souvent du monde d'après, oui, le Covid. Ce qui est sûr, c'est qu'il y avait des faisceaux faibles qui ont été probablement accélérés par cette crise du Covid. Et les gens ont besoin de redonner du sens à leur acte d'achat de services touristiques. Aujourd'hui, on a envie de local, d'authenticité, on a envie d'histoire, de terroir, c'est ce que recherchent les gens.
Donc ça veut dire que l'industrie du tourisme doit s'y adapter aussi et doit s'y convertir d'une certaine manière.
Ouais, d'ailleurs, on l'a vu et Roland le confirmera peut-être, les établissements de petite taille en ruralité, c'est vraiment ceux qui ont rencontré un succès cet été. C'est ce que les gens sont venus aller chercher.
Alors en parlant de ruralité, il y a Jean Dossonville qui est avec nous par téléphone, directeur général du domaine national de Chambord, évidemment, château de François Ier que tout le monde connaît. Bonsoir monsieur.
Bonsoir.
Merci de nous accorder quelques instants. Alors cette année, vous avez perdu 90% de vos touristes internationaux, comme beaucoup dans l'industrie du tourisme. Mais vous avez rattrapé votre activité grâce aux touristes français qui étaient évidemment plus importants, qui ont peut-être dépensé un peu plus. Mais je voudrais vous entendre, monsieur, sur le besoin de vous diversifier. C'est ce qui a été dit, vous l'avez entendu ici en studio. Ce besoin, vous le ressentez aussi pour proposer un tourisme différent ?
Oui, en fait, on le ressent depuis déjà quelques années. C'est-à-dire qu'il y a une demande de nature, d'environnement naturel qui est ancienne également, de bons produits, de gastronomie, d'authenticité qui n'était pas nouvelle. Elle a pris un tour beaucoup plus aigu avec le confinement, peut-être aussi avec la conscience de la crise climatique.
Donc chez vous, à Chambord, ça passe par quoi cette offre multiple et proche de la nature ?
Depuis quelques années, en fait, on a élargi les propositions d'activités. D'abord, en élargissant les promenades ouvertes au public. On a ouvert 250 hectares de promenades en plus qu'on a aménagées. On a restauré nos jardins, jardin anglais, jardin la française. On vient de recréer des potagers conduits en permaculture. On a développé et géré en direct tout ce qui était promenade en vélo, oui. En barque.
Et ça fonctionne tout ça ?
Eh bien, ça fonctionne très bien. Cet été, c'est là-dessus qu'on a fait les plus belles progressions en chiffre d'affaires. Et donc, on s'en sort malgré tout cette année. C'est-à-dire qu'il faut voir les choses aussi. Alors, négativement, on va quand même faire la pire année touristique depuis la libération. Mais malgré tout, on limite la casse parce que on a eu plus de Français cet été, et surtout les Français ont plus dépensé. Et donc, on ne rattrapera pas globalement, mais disons qu'à partir de la sortie du confinement, ce qu'on voit, c'est qu'on a quasiment retrouvé notre niveau de recette de l'an dernier, parce que les Français qui venaient dépenser plus, et notamment, par exemple, louaient plus de bateaux, vélos, consommaient plus de glace, oui. Donc nos terrasses de café, etc.
Bien. Alors, on va marquer une courte pause et puis on se retrouve. Vous restez avec nous, monsieur Dossonville. J'ajoute que c'est bientôt le Brame du Cerf. Alors, il y a plein de gens qui vont venir vous voir. Allez-y. Je connais bien ce spectacle puisque j'ai grandi à côté de Chambord personnellement. Voilà, n'hésitez pas à aller au château de Chambord. Ça fera des touristes supplémentaires. À tout de suite. On se retrouve en direct sur Europe 1.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
Avec toujours en direct le débat du Club des Idées. Et ce soir, on s'intéresse au tourisme. La France peut-elle se passer de ses touristes étrangers et à quoi ressemblera le tourisme demain après cette crise inédite qu'a connue le secteur, qui va peser très lourd dans l'économie et dans l'industrie touristique, que ce soit pour les restaurants, les hôtels, les sites touristiques, les musées, voilà, toute l'industrie. Alors, on évoquait juste avant la pause la manière de se réinventer. C'est une question que j'ai envie de vous poser, Jean-Pierre Masse. Vous êtes président des entreprises du voyage. À quoi d'abord va ressembler notre été 2021 ? Vous allez me dire, ça dépend de la crise sanitaire, mais comment vous imaginez la suite ? Et est-ce que d'une certaine manière, on est en train de tourner la page du tourisme de masse ?
Alors, si vous considérez le tourisme de masse comme un gros mot, non, le tourisme de masse,
c'est pas un gros mot dans ma bouche. C'est la démocratisation du tourisme, voilà, cher, qui permet à chacun de partir à peu près où il veut.
C'est le résultat d'une lutte sociale, oui. De conquête sociale. Oui. Ça s'est fait pendant 70 ans, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Oui. Et aujourd'hui, c'est un droit, et en matière de conquête sociale, on ne revient pas en arrière. En revanche, le comportement des touristes va évoluer.
Mais vous voyez qu'on a changé d'époque quand même. Avant, il fallait avoir un bel hôtel, une piscine, aller au bord de la mer, voir du monde, sortir dans les restaurants, aller en discothèque, pourquoi pas. Aujourd'hui, c'est un retour à la nature, l'aspérité des touristes, absolument. Y compris français.
Ces bruits de fond que l'on entendait un petit peu, ils sont de plus en plus forts. La tourismophobie, la nature, c'est retour à la nature, le cocooning, vivre dans un milieu dont on est sûr, où le nesting, dans une sorte de nid avec des amis, dans un bon confort, dans des bonnes conditions de vie, pas nécessairement un confort de luxe. Ça, c'est deux points importants. Le troisième également, c'est profiter un petit peu plus de ses vacances.
Oui.
Le voyage acheté, le week-end où on partait le vendredi soir.
Et le city break, comme on dit.
Voilà, le city break, et où on passait en fait deux nuits, une journée, on avait fait Rome, et on avait vu la fontaine de Trevi, et c'est tout.
En express.
Et là, ça va être remplacé certainement, et assez vite, par des voyages plus longs, où l'on ira moins vite, un slow tourisme, où on profitera un petit peu plus de l'environnement, on profitera des gens, on profitera des gens avec qui on voyage.
Et Roland Aigui, est-ce que la France et les industries que vous représentez, les restaurateurs, les hôteliers, sont prêts pour cette mutation ?
Bah écoutez, c'est un petit peu comme dans le sport, vous savez, ce Covid-19, effectivement, nous, on est en train de... C'est comme une défaite. C'est comme une défaite. Donc, on est en train de repenser et on essaie de tirer parti de cette défaite. Donc, effectivement, on parlait de la montagne, on parlait des zones de la ruralité. Quoi qu'il arrive, le maître mot, ça va être la qualité. Il ne faut jamais le perdre de vue, ça. C'est-à-dire que toutes les entreprises, qu'elles soient petites, moyennes ou grandes, qui sont réactives, qui amènent des spécificités, des nouvelles spécificités particulièrement, je parle en termes de consommation, de production dans les territoires, tout ça, on sent que tous ces territoires, soutenus justement par les départements, par les régions, ont envie de faire revivre et renaître et reconnaître ces régions-là, ces départements, parce que c'est effectivement essentiel pour l'économie française.
On a vu d'ailleurs qu'il y avait une guerre de communication des collectivités. Ouais. Sitôt le confinement terminé, venez dans le Puy-de-Dôme, venez sur la Côte d'Azur, venez dans les Pyrénées. Et c'est vrai que la montagne, de ce point de vue-là, était l'un des grands gagnants de cet été particulier qu'ont connu les Français. Mais demain, quand même, demain, est-ce que... il va falloir changer de paradigme, que ce soit pour les restaurateurs, les hôteliers, que ce soit pour cette industrie du tourisme.
Ça se fera naturellement, je crois, ça se fera naturellement, parce qu'on sent qu'il y a une envie de la part du consommateur, du client, de changer, de découvrir autre chose aussi, par rapport à tout ce que vous avez cité. Et après, effectivement, en face, il faut que ces chefs d'entreprise soient innovants. C'est pour ça que je mets toujours le mot qualité, quoi qu'il arrive, quel que soit le niveau, que ce soit une auberge, que ce soit dans un... Et on s'aperçoit qu'effectivement, il y a toute une volonté, même... Moi, je le vois, je suis du Pays Basque.
Et ça s'entend un petit peu, ouais. Je vous confirme.
le nombre de villages dans le Pays Basque qui travaillent énormément bien, parce qu'effectivement, ils sont toujours en recherche de qualité. Et il y a cette authenticité, cette volonté de faire découvrir ses racines et ce pays-là. Et bien, eux passent justement à travers les mailles pour le moment.
Vangelis Panayotis, vous êtes consultant en tourisme, président de MKG Consulting. Comment vous l'imaginez, vous, ce tourisme dans un an, deux ans, trois ans, cinq ans ?
Alors, d'abord, le tourisme, ça reste quand même une industrie lourde qui mobilise beaucoup de capitaux. Donc, ça ne va pas pivoter comme une danseuse étoile. C'est assez compliqué. C'est pour ça qu'il faut aussi avoir une vraie volonté politique pour ce secteur. Il faut l'accompagner. On a vu que c'était assez complexe.
Ça représente 8%, je crois, du PIB français, le tourisme. Hein.
Ouais, on est à 8% du PIB, ce qui est assez colossal hein, pour une économie d'un pays du G7. Hein. On ne parle pas de la Grèce ou des Caraïbes.
Oui, bien sûr.
On est quand même dans une industrie qui est assez lourde. Et donc, il va falloir qu'on accompagne cette transition parce que d'abord, elle est extrêmement consommatrice d'emplois qui sont entre guillemets non délocalisables. Mais ça, c'est un grand sujet. Hein. C'est la valeur ajoutée qui se délocalise. Mais en gros, il faut qu'on arrive à réinventer, à reprendre la main sur la destinée de notre tourisme. Les gens cherchent vraiment, vont changer de vie. On voit aux États-Unis, souvent les tendances viennent un peu de là-bas, il y a une vraie notion au nomadisme. On a vu avec le télétravail, on a vu que les gens réorganisent leur vie et vont peut-être demain, il y a eu des cas cet été, des jeunes qui étaient en télétravail, pas cités d'eux, mais dans une auberge jeune, et voilà, ils avaient fini leur visioconférence, il y avait des vagues, ils sont partis surfer, ils revenaient, ils recommençaient à bosser. Donc ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Mais
ça peut participer à profiter à l'industrie du tourisme, c'est ça ce que vous dites. Oui. Ces nouveaux usages de la vie du quotidien.
Oui, mais il va falloir s'adapter et ça va prendre aussi un peu de temps. Donc cette transition, il faudra l'accompagner et elle sera multiple. Ce ne sera pas un type d'hôtellerie ou un type de service qui va correspondre à tout le monde. Il va falloir s'adapter à chaque moment de vie que chacun a envie de vivre un instant T. Mais vous savez, il y a 30 ans, le tourisme était un formidable outil d'irrigation économique du territoire.
Oui.
Et c'est vrai qu'au fil des dernières années, il s'est un peu concentré sur certaines destinations.
Alors comment ça va se passer dans le Loir-et-Cher ? On est toujours en ligne avec Jean Dossonville, directeur général du domaine national de Chambord. Comment imaginez-vous, vous, le tourisme autour du château de Chambord avec son écosystème, vous l'évoquiez tout à l'heure, ses nouveaux usages dans les années qui viennent ?
En fait, il y a deux pistes. D'abord, pour le tourisme international, la priorité, ce sera les touristes européens, c'est-à-dire ceux qui peuvent venir par le train, la route, sans passer par le transport aérien, parce que c'est une piste sûre. Et en fait, ce qu'on voit, c'est qu'on n'a peut-être pas assez travaillé nos pays voisins, amis, comme les Allemands, par exemple, qui sont un marché très intéressant et mûr. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point pour les Français, oui. Nous avons beaucoup progressé en fréquentation française et je crois que nous allons continuer de le faire parce que je rejoins tout ce qui a été dit avant, c'est que le luxe aujourd'hui, ce n'est pas ce qui est cher. Le luxe, c'est ce qui est authentique et ce qui est durable. Et en fait, tout l'objectif. Voilà, et tout l'objectif du tourisme durable, c'est de ne pas devenir un tourisme élitiste, mais un tourisme accessible au public le plus large. Ce serait ça, en fait, la poursuite de la conquête sociale, une conquête sociale et écologique, bien sûr. Et donc, dans la réflexion, il faut que nous puissions offrir des moments merveilleux, parce que Chambord est un moment merveilleux, à tous, et notamment aux familles. Et ça peut être des choses très simples, hein, vous savez, ça peut être, par exemple, passer des moments assis sur une prairie, ou allongé dans l'herbe, ou à pique-niquer, le fait que ce soit permis, mais en face d'un monument merveilleux, c'est quelque chose de très important.
On n'est plus dans la quantité, on est dans la qualité. Merci à tous les trois, à tous les quatre même, d'avoir été ce soir nos invités dans le débat du Club des Idées. Et vive l'économie française, vive le tourisme français. Il est 19h49, on marque une pause, on se retrouve dans quelques instants et on plongera dans les archives. On vous racontera une histoire secrète dans le cadre du procès de Charlie Hebdo qui se tient en ce moment à Paris. A tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
Et à 19h52, on poursuit le Club des idées d'Europe Soir. Et comme chaque soir, on plonge maintenant dans les archives pour éclairer l'actu. 3 minutes pour comprendre, ça s'appelle le jour où.
On essaiera un jour de faire une grande cantine, peut-être cet hiver, gratos. Voilà.
Europe 1.
Bonsoir Sébastien Guyot.
Bonsoir Julien.
Alors à l'occasion du procès Charlie Hebdo qui se tient en ce moment, nous avons décidé ce soir de vous faire revivre le sort de l'otage de l'imprimerie. Il a été retenu par les frères Kouachi pendant plusieurs heures. Il s'appelle Michel Catalano. Et c'est vous Sébastien qui nous en parlez ce soir car il a témoigné aux Assises de Paris et vous le connaissez particulièrement bien. Vous avez une relation privilégiée, on peut dire ça, avec lui depuis des années, depuis ses attentats que vous avez couverts comme reporter pour Europe 1.
Oui, je l'ai rencontré la toute première fois le 9 janvier 2015, ce jour terrible où il a cru mourir. Ce vendredi matin, Michel Catalano boit tranquillement un café avec son employé Lilian, l'humeur est joyeuse. Le patron de l'imprimerie vient d'avoir 48 ans, 2 jours plus tôt, et ils vont fêter ça une fois que toute l'équipe sera arrivée. C'est alors qu'on sonne à la porte de l'imprimerie. Les deux hommes sont persuadés qu'il s'agit d'un fournisseur avec qui ils ont rendez-vous. Erreur, Michel Catalano aperçoit les Kalachnikovs et il comprend très rapidement. Il dit à Lilian d'aller se cacher et se retrouve alors seul face aux terroristes.
C'est un face-à-face, voilà. Ils m'ont dit « Est-ce que vous me reconnaissez ?» J'ai dit « Oui, je sais qui vous êtes. » Et là, ils m'ont demandé d'appeler la gendarmerie. Ça m'a paru un peu curieux, mais je me suis évidemment exécuté puisqu'ils étaient en face de moi avec Kalachnikov pointé sur moi.
Michel Catalano appelle alors les gendarmes. Quand ils arrivent, les terroristes sont tout excités. Ils veulent faire le plus de morts possible. Échange de coups de feu, l'un des frères Kouachi est blessé. Il parvient malgré tout à revenir à l'intérieur de l'imprimerie. Michel Catalano propose de le soigner car il est secouriste. Les frères acceptent. Ils finissent finalement par le laisser sortir. Et quelques heures plus tard, les frères Kouachi sortent à leur tour et ouvrent le feu. Les hommes du GIGN ripostent. balles échangées au total. Les terroristes sont morts. Lilian, l'employé, est libéré. L'imprimerie totalement détruite. Michel Catalano aussi.
Quand je rentre dans mon entreprise, si vous voulez, à chaque fois, c'est un traumatisme parce que tout est cassé. Et c'est une entreprise dans laquelle je me sentais quand même bien. C'est pas facile. En fait, je pensais pas avoir cette angoisse. Mais maintenant, c'est vrai que quand j'y retourne, je revois des choses tout le temps. Et finalement, aujourd'hui, j'ai envie que ça parte. Et du coup, je pense que je vais tout changer dans l'entreprise. Et là, j'aimerais pouvoir vider, nettoyer complètement le bâtiment, ça aussi, ça ferait partie déjà des choses qui pourraient me faire avancer un petit peu.
Et c'est d'ailleurs ce que va faire Michel Catalano. Il va reconstruire son entreprise exactement au même endroit pour mieux se reconstruire.
Oui, absolument. 20 mois plus tard, le 29 septembre 2016, Michel Catalano inaugure sa nouvelle imprimerie en présence du président de la République de l'époque, François Hollande.
Beaucoup de Français voudront savoir, mais c'est où Dammartin ? C'est où le fameux groupe Catalano, c'est là où il s'est produit un drame, mais aussi une renaissance et donc une espérance.
Cinq ans après la prise d'otage, Sébastien, est-ce qu'on peut parler, comme le disait François Hollande, de renaissance et d'espérance ?
Alors oui, malgré la boule au ventre que Michel Catalano a encore tous les matins en arrivant sur son lieu de travail, malgré les cauchemars qu'il a régulièrement, il le dit, il se sent plus fort aujourd'hui psychologiquement et il ne regrette absolument rien.
Et sa renaissance, sa reconstruction, il vous en parle, Sébastien, dans un podcast absolument formidable, Europe 1 Studio, que vous avez créé. Ça s'appelle « Le son de vie », « Le son ». Pas comme une leçon, hein. Le son qu'on entend,
en
LE, espace SON. L'épisode consacré à Michel Catalano est en ligne depuis ce matin sur Europe1.fr et toutes les plateformes d'écoute. Bravo pour ce travail et merci d'avoir
merci
été avec, avec nous ce soir.
Europe 1, Julien Bugier.
19h56, dans un instant, l'info, en bref, et puis la musique avec Émilie Mazoyer. Émission à ne pas rater ce soir avec un grand artiste qu'elle reçoit, Grand Corps Malade. Et nous, on se retrouve même lieu, même heure, dans le studio d'Europe Soir, à partir de 18h, pour écouter Le Monde Changer, évidemment, avec notamment le Club des Idées. À demain, ciao.